Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Tony Renucci, directeur général de l'association Respire, conseiller municipal de Joinville-le-Pont. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Tony Renucci, nous allons évoquer la question des transports en commun qui sont actuellement saturés en Île-de-France, mais aussi la pollution de l'air. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours personnel et politique, puisque vous avez été tête de liste aux dernières élections municipales ?
Moi, je suis Tony Renucci, j'ai 31 ans. Je suis investi, on va dire, sur deux sujets, à la fois à Joinville-le-Pont, la ville où j'ai grandi, où je vis, et puis ensuite sur le sujet de la qualité de l'air avec l'association Respire. Et c'est vrai qu'à Joinville-le-Pont, j'ai été candidat tête de liste aux élections municipales de 2020, sans étiquette, avec un mouvement qui s'appelle J'agis, j'innove pour Joinville-le-Pont, où j'ai réalisé 25% des voix dans une triangulaire. Donc je suis conseiller municipal d'opposition, et à côté, mon métier à temps plein, c'est directeur général de l'association Respire, qui est l'association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air, et ce depuis un peu plus d'un an.
D'après l'OMS, la pollution de l'air serait responsable d'un décès sur cinq dans le monde. Qu'en est-il en France ?
En France, on a plusieurs estimations. Santé publique France parle de 40 000 morts par an sur les particules fines. Une étude britannique parlait de 100 000 morts par an sur l'ensemble des polluants. En tout cas, on est largement entre 40 et 100 000 par an, ce qui est énorme, hein. Ça tue encore plus que le paludisme, même que les VIH, même que le Covid. Donc c'est vraiment un problème sanitaire urgent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement ça tue, mais c'est aussi une cause de nombreuses maladies. Des maladies notamment respiratoires, forcément, cardiovasculaires, des cancers, et y compris aussi du cerveau. Tout ce qui est Alzheimer, Parkinson, des maladies même mentales, hein, du stress, des maladies qu'on trouve aussi sur les adolescents. Enfin bref, il y a vraiment énormément de conséquences sanitaires. Et donc c'est pour ça vraiment qu'il faut s'atteler à améliorer la qualité de l'air. Il y a une étude qui a été faite, qui est en cours d'ailleurs actuellement, sur une cohorte d'enfants, à Paris, ou en tout cas qui inclut aussi, je pense, la banlieue parisienne. Moi, on m'a présenté les résultats là, il y a deux mois, hein, je crois. On a organisé un cycle de conférences. Et vraiment, il y a une recrudescence, hein, des cas d'asthme qui sont directement liés à la pollution de l'air. Hein. C'est même plus à démontrer. Tous les médecins le savent et le disent. Nous, on travaille beaucoup aussi avec une médecin pédiatre, Annie Kerr, qui nous dit vraiment que dans les services, il y a vraiment une recrudescence des cas d'asthme chez les enfants à Paris. Donc oui, la pollution de l'air aggrave les cas d'asthme chez les enfants. Et d'ailleurs, il faut comprendre pourquoi. Parce que les enfants, en fait, ils sont beaucoup plus vulnérables aux conséquences de la pollution de l'air. Ils sont plus petits, donc ils sont à hauteur des pots d'échappement. Ils respirent plus vite, donc ils aspirent plus de polluants. Et en plus, leurs organes sont encore en cours de formation. Donc les conséquences sont délétères.
Et on sait que le premier confinement en mars 2020 a permis de réduire la pollution.
Oui, ce qu'on sait sur le premier confinement, donc où vraiment on est resté chez nous et on a coupé vraiment le trafic routier, hein, il a diminué en Île-de-France de 89%, et on a vu surtout sur le dioxyde d'azote une énorme baisse, hein, je crois que c'était 25 à 30%, et je crois que ça allait même jusqu'à 50% le long des axes routiers, des concentrations de dioxyde d'azote. Donc ce sont quand même des chiffres qui sont très importants. Et également, ça a été, je dirais, important en termes de prise de conscience, parce que est venu le sujet aussi de la qualité de l'air intérieur, notamment dans les salles de classe. Et donc c'est vrai que le Covid a aidé à mettre ça en avant.
Alors, pour lutter contre les particules fines, Tony Renucci, on sait qu'il faut réduire la circulation des automobiles, des camions et des deux roues. Est-ce qu'il y a d'autres mesures à mettre en place ?
Déjà, il faut bien comprendre que la première source d'émissions de particules fines en France et en Île-de-France, c'est le chauffage au bois. C'est ce qu'on appelle la pollution résidentielle. Donc, dès qu'on se chauffe, on émet des particules fines. La deuxième cause, effectivement, c'est le trafic routier. Donc, Ce qu'il faut, c'est agir sur les deux plans. Essayer de réduire les émissions de particules fines avec le chauffage, et donc notamment le chauffage au bois, c'est-à-dire mettre des inserts, c'est-à-dire mettre du bois de qualité, qui ne soit pas trop humide, c'est l'allumage par le haut. Bon, il y a pas mal de recommandations qui sont faites par le gouvernement pour optimiser l'utilisation du chauffage. Et puis pour ce qui concerne la voiture, eh ben, pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de l'utiliser, le mieux, c'est de rouler en électrique, parce que ça permet de ne pas émettre de polluants au niveau de l'échappement, donc on réduit quand même considérablement les polluants émis. Et puis pour ceux qui peuvent se permettre de ne pas utiliser la voiture, c'est de prendre les transports en commun, c'est de marcher, c'est de prendre le vélo, ou en tout cas, c'est d'éviter les déplacements qui ne sont pas essentiels.
On a beaucoup parlé du covoiturage. Qu'en est-il dans la réalité ? Est-ce qu'il faut des mesures plus incitatives ?
Je ne pense pas qu'on y arrivera avec des mesures punitives. C'est beaucoup trop ancré dans les habitudes et c'est encore trop essentiel pour certaines personnes pour qu'on se permette de faire ça. Donc ça ne fonctionnera pas. Non, je pense que sur le covoiturage, il faut être beaucoup plus sur l'incitatif parce qu'en fait, on est aussi sur un changement de mode de vie qui n'est pas habituel pour les Français. Voilà, c'est pas aujourd'hui quand on achète une voiture, c'est une propriété, c'est aussi un signe de réussite sociale. En tout cas, ça l'était. C'est pas une habitude ancrée dans les mœurs aujourd'hui de se dire qu'on va partager sa voiture et qu'on ne va pas la détenir. Donc, c'est pour ça que c'est difficile et que ça prend du temps. J'ai vu qu'il y a eu une annonce du ministre des Transports pour une aide de 100 €, je crois, pour le covoiturage. Donc ça va dans le bon sens. Et après, je pense que ça passera également par des voies réservées au covoiturage sur les routes, sur le périphérique. Et c'est une très bonne idée. Dans d'autres pays, ça se fait. Moi, j'ai été aux États-Unis là récemment. Par exemple, à Miami, vous avez ce qu'on appelle les express lanes, qui sont des voies de covoiturage qui sont à gauche, donc la voie de déplacement. Et vous avez une sorte de macaron qui peut être scanné par des caméras de vidéo-verbalisation. Et voilà, vous prenez un abonnement et vous pouvez emprunter cette voie. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est la voie la plus fluide.
Alors Tony Renucci, avec les explications que vous venez de nous donner, on comprend que le recours au transport en commun, c'est bon non seulement pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour la qualité de l'air. Oui. Or, pour l'instant, ces transports en commun sont saturés en Île-de-France. Le ministre des Transports ne voit pas d'amélioration avant le printemps 2023. Comment réagissez-vous à ce qui est en train de se passer en Île-de-France ?
Déjà, c'est dramatique. Et je peux d'autant plus en parler que moi, je prends les transports tous les jours, je prends le RER A tous les jours. Et c'est vrai que c'est saturé. D'ailleurs, bizarrement, alors que le RER A a longtemps été en souffrance, je trouve que ça s'empire vraiment sur les métros. Bon, maintenant, il faut comprendre aussi les causes, parce que je vois beaucoup de polémiques, mais bon, je pense que c'est une faute aussi un peu partagée. Qu'on ait réduit l'offre pendant le Covid, ça pouvait se comprendre. Après, c'est aussi lié à des départs, c'est aussi lié, je pense, à des conditions de travail difficiles. Et une vocation peut-être qui se perd un peu, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une pénurie de conducteurs de train. Et puis probablement un investissement qui peut-être ou s'est réduit ou n'a pas été suffisant sur les réseaux et qui explique toutes ces difficultés que nous avons aujourd'hui dans les transports. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on va augmenter le prix du pass Navigo, je crois, d'environ 10 €, d'après les annonces qu'on a vues passer. C'est pas compréhensible qu'on augmente le prix du Navigo si on a en plus une offre de transport qui se détériore. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'il y ait des problèmes de trésorerie pour Île-de-France Mobilité, bon, c'est un fait, voilà, je peux pas le contester. Mais honnêtement, faire peser sur nous, les usagers, les consommateurs finalement de ces services de transport, une augmentation du prix pour compenser les problèmes de trésorerie de France Mobilité alors qu'on ne voit pas l'offre s'améliorer, c'est quand même très difficilement compréhensible et ça me paraît assez injuste.
Vous parlez de responsabilité partagée sur la saturation des transports en commun. Est-ce que l'État devrait reprendre la main sur ce dossier plutôt que de renvoyer la région à ses responsabilités ?
Je pense surtout qu'il faut que les deux échelons s'entendent et travaillent ensemble. Parce que le problème, c'est que l'État va dire c'est la région, et la région va dire c'est l'État. Mais bon, voilà, c'est aussi la politique un peu politicienne. Finalement, personne ne sait vraiment à qui est la faute. Nous, tout ce qu'on constate, c'est un service qui s'amenuise. Donc, il vaut mieux être dans une logique de concertation et de travailler ensemble et de se mettre d'accord sur des garanties qui feraient que le prix n'augmenterait pas et surtout que l'offre s'améliorerait. Parce que là, je ne vois pas vraiment encore où on est gagnant. Ça augmente de 10 euros, mais bon, si ça ne s'améliore pas jusqu'au printemps 2023, franchement, ça va être très mal perçu.
Et il y a un autre élément dont on parle peu pour l'instant, mais c'est que la saturation de ces transports en commun pose un problème de sécurité. Les usagers sont agglutinés sur les quais du métro. Il est parfois quasi impossible d'avancer dans les tunnels comme à Châtelet. Ça devrait être un élément de préoccupation des pouvoirs publics.
Oui, c'est pas l'élément que je connais le mieux, hein, pour être honnête, mais oui, la sécurité au même titre aussi que la qualité de l'air, hein, dans les enceintes ferroviaires. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus chez Respire, parce que il faut aussi savoir que les enceintes ferroviaires, malheureusement, ont des niveaux de pollution assez importants, parfois même plus importants que dans l'air extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de ventilation, parce qu'il n'y a pas de purification de l'air dans les rames, et parce qu'on a aussi les poussières de frein, qui sont des particules très fines et qui sont dangereuses pour la santé. Alors, je dis ça et en même temps, je ne déconseille pas de prendre les transports en commun, mais c'est pour montrer qu'il y a un gros effort de modernisation à faire et je pense aussi de transparence de l'information, tant sur les temps d'attente que sur les niveaux de pollution.
La hausse du pass Navigo risque de dissuader certains franciliens de prendre les transports en commun. Vous redoutez de voir de nouvelles voitures sur les routes à partir du mois de janvier ?
Moi, je pense que c'est surtout l'état actuel des transports en commun qui va dissuader. Et donc, si en plus on ajoute une hausse du pass Navigo, ça ne va pas améliorer les choses. Il y a une étude qui était sortie il y a quelques semaines qui montrait que l'autosolisme en Ile-de-France était en progression, c'est-à-dire le fait de conduire une voiture individuelle tout seul. Et donc ça, c'est un mauvais signal. Mais en même temps, il faut aussi constater une chose, c'est qu'en ce moment, on fait tout pour encourager à reprendre la voiture et ne pas aller vers l'alternative. Les transports en commun sont en rade. Je vois qu'à Paris, on veut maintenant interdire les trottinettes électriques en free-floating. Je voyais aussi que Paris Ancel, une très bonne association de vélo, regrettait que le plan vélo n'aille pas plus vite. Et puis en même temps, on recule aussi sur les objectifs de qualité de l'air avec la zone à faible émission, puisqu'on a reporté de 18 mois l'interdiction des critères 3. Donc en fait, on est dans un contexte qui est défavorable. Défavorable à l'alternative, mais qui malheureusement pourra avoir pour conséquence d'augmenter le recours à la voiture.
Que répondez-vous aux franciliens qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule propre et qui très bientôt ne pourront plus circuler à Paris ?
Mais je comprends la détresse. Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, on parle de la zone à faible émission quand on parle de ça. La zone à faible émission, qui était une bonne idée de départ quand ça a été pensé en 2015, donc ça fait quand même aussi un moment qu'on en parle, c'était de dire, de mettre en place des restrictions de circulation sur les véhicules les plus polluants. Le problème, c'est que à force d'avoir attendu et qu'il ne se passe rien, avec des reculs aussi successifs de l'État, et je pense aussi des collectivités, et bien on se retrouve dans une situation aujourd'hui qui est intenable. C'est-à-dire que la ZFE, c'est devenu une impasse. Et elle devient inapplicable. On ne va pas se leurrer ou faire semblant. Ça devient inapplicable. Quand on voit que certaines villes en Ile-de-France, notamment dans 93, c'est 70-80% des usagers de la voiture qui devraient remplacer leur voiture dans les 2 ou 3 prochaines années, c'est impossible. C'est impossible financièrement. Donc je pense que maintenant, il faut réfléchir à une autre façon d'appliquer la zone à faible émission. Déjà, parce qu'il y a quelques lacunes aussi dans la mesure qu'il faut revoir. C'est pas normal qu'on n'ait pas des véhicules qui sont aussi polluants, mais qu'on ne prenne pas en compte la masse du véhicule, l'entretien du véhicule, la consommation dans la ZFE. Et puis, je pense que voilà, sur le calendrier, sur les aides, il faut sûrement retrouver plus de progressivité. Et donc, profitons justement de ce temps long, puisque là, on a un peu de temps, vu que ça ne va pas s'appliquer tout de suite, pour trouver une autre façon de faire. Mais on ne pourra pas vraiment continuer avec la mesure telle qu'elle a été pensée initialement. Ça ne fonctionnera pas.
Tony Renucci, 3 associations, dont la vôtre, Respire, ont demandé au Conseil d'État d'annuler la décision du gouvernement de revenir sur l'application du contrôle technique aux 2 roues, aux motos, pour parler clairement. À l'occasion de ce référé devant le Conseil d'État, vous avez été la cible d'attaques racistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et est-ce que vous avez porté plainte ?
Alors déjà sur le contexte, donc effectivement une directive de 2014 que la France se refusait d'appliquer, qui devait instaurer un contrôle technique pour les deux-roues motorisées en France. Pourquoi ? Pour des objectifs de sécurité routière, pour des objectifs aussi écologiques, c'est-à-dire de réduire la pollution sonore et également d'améliorer la qualité de l'air. Une mesure qui devait s'appliquer en août 2021, sur laquelle le gouvernement est revenu dès le lendemain de l'apparition du décret sur demande du président de la République pour, je cite, « ne pas embêter les Français ». Nous, bien sûr, pour nos objectifs à nous d'amélioration de la qualité de l'air, nous avons donc fait ce recours avec Paris sans voiture et RA le scout, et nous avons obtenu gain de cause, nous avons gagné au Conseil d'État, et nous avons fait plier le gouvernement pour que la mesure s'applique. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le contrôle technique va s'appliquer à l'été prochain. Nous avons rencontré le ministre Clément Beaune en personne, et ça nous a été confirmé. Mais c'est vrai que suite à cette décision, et comme si moi j'ai pas mal assuré, on va dire, le service après-vente dans les médias pour Respire, j'ai été la cible d'une vague cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, y compris sur mes réseaux sociaux personnels, avec des insultes, des menaces de mort et également des insultes racistes. Et ce qui est fou quand même et que j'ai constaté, c'est qu'il y a une vraie libération de la parole raciste en France. Alors, je ne l'invente pas, hein, peut-être qu'on n'a pas attendu que je le dise pour s'en rendre compte. En tout cas, moi, je l'ai constaté. Et je constate également la concomitance entre des événements nationaux, comme le député du RN qui dit qu'il rentre en Afrique, ou rentre en Afrique, on ne sait pas exactement, à l'encontre d'un député noir à l'Assemblée nationale. Et ensuite, je reçois les mêmes insultes sur les réseaux sociaux. On m'a dit « retourne dans ton pays d'origine », on me dit que j'avais la même couleur de peau que la matière fécale, « retourne en Afrique »,« retourne dans ton pays »,« retourne dans ton bled ». J'ai eu exactement les mêmes insultes. De la même façon, quand le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, parle d'éco-terrorisme, qui sont quand même des mots très graves, derrière, qu'est-ce qui se passe ? On m'insulte de terroriste de l'écologie, y compris le 13 novembre. Et ça, c'est très grave. Les mots ont un sens. Je suis français, je suis né en France, j'ai une mère noire, un père blanc, donc je suis métisse, mais c'est pas pour autant que je suis moins français que d'autres. Et de la même façon, je ne suis pas un terroriste, je n'ai tué personne, je ne fais que me battre pour un combat qui est écologique et de santé publique. Donc, on ne peut pas donner ce mauvais exemple, utiliser ces mots dans l'espace public parce qu'on veut gagner quelques points de popularité ou quelques futurs suffrages à des élections contre le RN, car derrière, ça libère une parole intolérante et raciste auprès de la population. Et c'est très grave. Donc, c'est pour ça que je l'ai dénoncé sur les réseaux sociaux et c'est pour ça, bien sûr, que je porte plainte. Donc il y a eu une première plainte pour injure publique contre la Fédération des motards de France qui m'a traité de terroriste de l'écologie, et il y a également des plaintes pour injure raciste en cours de préparation qui, je pense, seront déposées début janvier 2023.
Merci Tony Renucci. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'association Respire et conseiller municipal de Joinville-le-Pont. Bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.